Voilà, il reste pas grand monde quand les jeunes et les ados et les enfants sont partis. Mais c'est bon signe. Il faut qu'il y ait des jeunes dans une église, il faut qu'il y ait des enfants. C'est une grande famille, n'est-ce pas? Et on est béni. On est béni par nos frères. On a été béni par nos frères de Côte d'Ivoire, énormément béni dans l'église par leur présence. Voilà, on ne se connaissait pas avant, mais on se connaissait quand même, parce que l'Esprit de Dieu est le même en Afrique qu'en Europe, n'est-ce pas? Et le Seigneur est bon, et le Seigneur est puissant, et on peut se confier en lui, n'est-ce pas? Alors voilà, j'aimerais parler dans Malachie. Malachie, vous savez où ça se trouve? Ça se trouve à la fin du Nouveau Testament, dans notre version habituelle, juste avant les évangiles. Mais ça prêche l'évangile. L'évangile est très clairement annoncé dans Malachie. Aussi, on va regarder d'autres chapitres. On va regarder dans Ézéchiel, chapitres 36 et 37. Donc, il faut savoir trouver un peu, avoir le doigt peut-être dans ces deux passages, de sorte à ce qu'on puisse s'y référer facilement. Et dans Malachie, au chapitre 2, et au verset 4, disons, ou surtout au verset 5, je commence au verset 4, vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, ce que je lui accordais pour qu'il me craignît. Et il eut pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom. Voilà. Une parole importante. Alors, j'aimerais qu'on puisse aussi faire référence, comme j'ai dit, à Ézéchiel chapitre 36, où il est question du nom de Dieu à plusieurs reprises. Dans le chapitre 36 d'Ézéchiel, Dieu dit à plusieurs reprises à son peuple qu'il va agir pour le peuple, pas à cause d'eux, mais à cause de son nom. Parce qu'il dit, mon nom est grand parmi les nations, mais vous avez profané mon nom, si je résume le chapitre 36. Et j'aimerais dire que c'est un peu la situation de l'Europe, de la France notamment, au XXIe siècle. C'est que le nom de Dieu a été profané, le nom de Dieu a été blasphémés par le monde, non pas parce qu'ils avaient de la haine de Dieu, mais parce qu'ils n'ont pas vu qui était Dieu. Et Dieu se révèle, comme on le sait, puisqu'on l'a vécu pour la plupart d'entre nous, Dieu se révèle dans les cœurs de ceux qui le cherchent. Il interpelle, il appelle les gens à cause de son grand nom, à cause de son nom, à cause de qui il est, à cause de son nom. Il appelle les hommes et les femmes. Mais les gens n'ont pas cet appel souvent parce qu'ils ne voient pas ce que c'est que quelqu'un qui marche avec Dieu, qui représente Dieu, qui porte le nom de Dieu sur la terre. Vous savez que le nom qu'on porte, ce n'est pas pour être appelé. C'est un nom qui nous est donné par affiliation. C'est les parents qui choisissent habituellement le prénom, le nom qu'on a. Enfin, le nom, on l'a hérité de nos pères ou de nos parents, mais on porte cette responsabilité du nom qu'on a. Tout ce que l'on fait nous-mêmes, eh bien, comme décision dans la vie, ça a une influence sur le nom. Si c'est le nom du père ou le nom de la mère, ça a une influence sur le père ou la mère. Parce qu'on représente, le nom, ça veut dire que on représente sur la terre quelqu'un d'autre que nous. On pense que le nom, c'est personnel, on pense que c'est pour nous. Mais non, le nom qui nous a été donné, c'est pour représenter quelqu'un. Vous représentez vos parents, vous représentez Dieu si vous avez le nom de chrétien. Le problème, c'est que en Occident, ce nom a été bafoué, a été profané. Et les gens ont vu des modèles de gens qui se disaient chrétiens, donc qui se réclamaient du nom de Christ. Et ils ont vu des gens qui n'avaient aucunement la vie transformée, qui n'avaient aucunement le Saint-Esprit dans leur vie, et ils ont dit on n'en veut pas de cela. Et ils ont commencé à dire, si c'est ça Dieu, on n'en veut pas. L'apôtre Paul disait aux Juifs, le nom de Dieu est profané à cause de vous. Il le dirait probablement aux évangéliques de France. Il le dirait aux protestants. Il le dirait aux catholiques. Le nom de Dieu était blasphémé à cause de vous. C'est nous qui portons ce nom sur la terre. C'est nous qui avons reçu ce nom sur nous et nous devons représenter Dieu, non pas par nos efforts, mais par sa présence. Nous devons représenter Dieu sur la terre. Que ce soit en Côte d'Ivoire pour nos frères qui vont partir mardi, que ce soit ici, là où il nous a placés, quel que soit l'endroit, eh bien, c'est une responsabilité. Et ici, si vous lisez le livre de Malachie, vous allez voir que le prophète s'adresse à un peuple qui avait abandonné le Seigneur, qui offrait au Seigneur des sacrifices qui étaient infirmes, des animaux qui étaient infirmes, qui ne valaient rien. Oh, mais parce que ça vaut rien, on va le donner au Seigneur. Il y a d'autres reproches qui sont faits. Et là, à ce moment, et c'est sur ça que je veux insister, dans Malachie chapitre 2, il dit que l'alliance avec Lévi subsiste. Son alliance avec, au verset 5, mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Ce que je lui accordais pour qu'il me craignît. Il a eu pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom. C'est frappant d'ailleurs cette alliance avec Lévi parce qu'on la connaît pas, on n'arrive pas à retracer dans l'Ancien Testament de quoi il parle. Mais c'est probablement évidemment cette alliance de sacrificateurs. Ils sont nommés comme sacrificateurs. Et vous savez que si vous êtes à Christ ce matin, si vous réclamez du nom de Christ, vous êtes sacrificateur pour Dieu notre Père sur la terre. Le sacrifice que l'on apporte, ce n'est pas un sacrifice animal, ce n'est pas un sacrifice de libation ou une offrande quelconque. Selon Romains 12, c'est notre corps, c'est nous-mêmes, c'est nos comportements, c'est notre vie, c'est notre moi que l'on offre en sacrifice. On le se donne à Christ totalement. Et c'est frappant parce que si vous lisez la bénédiction de Jacob sur ses fils, eh bien Lévi, il n'a pas été très bien loti. Jacob était dur avec Lévi au moment de la bénédiction. Il a dit à Siméon et Lévi, il les a mis ensemble d'ailleurs. Il n'a pas donné une bénédiction particulière pour Lévi. Il a mis Lévi et Siméon ensemble. Il a dit, moi je ne rentre pas dans votre conciliabule. Vous êtes des hommes violents. Mais Lévi avait agi avec violence effectivement dans l'affaire de Dina, leur sœur. Parce que leur sœur avait été abusée, elle avait été souillée par quelque chose qui ne devait pas être fait, et ils ont agi avec fermeté. Et ça déplut à Jacob pour sa réputation. Et Jacob avait en quelque sorte coupé les liens avec Lévi. Mais le Seigneur n'avait pas oublié Lévi, comme il n'avait pas oublié sa maman Léa, qui avait été rejetée aussi par Jacob d'une certaine façon. Dieu avait une bénédiction pour elle. Vous savez que Léa était la maman de Juda et de Lévi. Les deux grandes tribus d'Israël. Rachel a eu moins de chance dans la vie. Mais voilà, parce que le Seigneur sait rendre justice et c'est son plan qui marche. Et la bénédiction de Moïse plus tard envers Lévi, eh bien, est une bénédiction extrêmement encourageante pour Lévi. Et ici, on voit que Dieu a choisi Lévi. Il a choisi cette alliance. C'est lui qui l'a établie avec lui. Et il a dit, c'est une alliance de vie et de paix. J'aimerais savoir si nous sommes rentrés dans cette alliance de vie. Vous savez que comment on sait que quelqu'un est né de nouveau? Eh bien, on sait parce qu'il vit selon l'Esprit de Dieu. Il vit de l'Esprit de Dieu et il vit par l'Esprit de Dieu. C'est comme ça qu'on voit qu'un bébé est né, n'est-ce pas, qu'il est vivant. Il y a tout un tas de tests qui sont faits en maternité. Pour voir s'il est pas bon vivant, c'est facile à voir, mais s'il est bien vivant, c'est-à-dire s'il est en bonne santé. Et si vous regardez dans Ézéchiel 37, bien sûr Ézéchiel 36, c'est une préparation à Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, le prophète est amené dans une vision, dans une vallée où il y a des ossements. Et le Seigneur lui pose une question extraordinaire. Il lui dit, est-ce que ces os peuvent revivre? Oh Seigneur, toi tu le sais. C'est impossible. Mais c'est ça l'évangile. L'évangile n'est pas une question de choses possibles. C'est une question de l'impossible qui est réalisée. Et les eaux que vous voyez répandues peut-être dans votre famille autour de vous, inanimées, eh bien l'Esprit de Dieu peut venir donner vie. Et c'est ça que nous voulons voir dans cette région. Nous voulons voir que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. C'est ça que nous voulons voir dans notre vie. Et il est question dans ce chapitre 37 d'un message merveilleux de l'Évangile qui, au fond, qui résume l'Évangile. Parce que il dit, je crois que c'est à la fin du chapitre, malheureusement j'ai préparé dans une autre Bible, c'est une erreur, dans une autre version, donc ce n'est pas placé au même endroit et je ne retrouve pas si facilement. Mais je sais ce que le Seigneur dit. Il dit que « Je vous sortirai de vos sépulcres. » Et c'est là que vous verrez que j'ai agi, que je suis Dieu. Et j'aimerais dire ce matin, est-ce que vous pouvez dire que vous êtes sorti de votre sépulcre? Est-ce que vous êtes sorti? Est-ce que vous êtes comme Lazare au chapitre 12, qui dans son sépulcre, de Jean chapitre 12, bien sûr, dans son sépulcre, il a entendu la voix du Seigneur qui disait « Lazare, sors !» Le sépulcre, je n'ai pas besoin de le décrire. Vous savez vous-même dans quel sépulcre vous avez été ou dans quel sépulcre vous êtes. Vous savez que à l'intérieur de vous, c'est la mort. Il y a tellement de gens qui disent ça, à l'intérieur de moi, c'est la mort. On voit qu'il n'y a rien de spirituel, il n'y a rien qui puisse plaire à Dieu, il n'y a rien qui puisse glorifier Dieu. Et parce qu'à l'intérieur de vous, vous avez la mort, eh bien vous êtes comme si vous étiez dans un sépulcre, comme si vous étiez dans la mort. Avec Dieu, il y a ce mystère de ce qui est à l'intérieur. C'est ce dans quoi on est, n'est-ce pas? On est rempli de l'Esprit, mais aussi si on est rempli de l'Esprit, on est baptisé dans l'Esprit. Donc on est l'Esprit de Dieu autour de nous et en nous. Est-ce que ce matin, vous avez un sépulcre dans lequel vous êtes? Vous ne partez pas de cet endroit, à moins d'avoir entendu la voix du Seigneur qui vous dit « Sors et sois libre ». Parce que l'alliance qu'il a faite avec Lévi, c'est une alliance de vie. Le Seigneur n'est pas mort. Les églises sont mortes. En Occident, les églises meurent l'une après l'autre. On voit les bâtiments qui commencent à être utilisés pour d'autres fonctions. On voit des gens qui cherchent Dieu, qui vont dans une église. Quelqu'un, d'ailleurs, m'a dit qu'il y a des années, il a consulté l'évêque de Lille parce qu'il était en terrible recherche de Dieu. Il est allé voir l'évêque de Lille parce que le prêtre local ne pouvait pas lui donner satisfaction. Il est allé voir l'évêque de Lille. L'évêque de Lille lui a dit, si tu cherches Dieu, il faut que le samedi soir ou le dimanche matin, tu ailles à la messe et tu prennes l'Eucharistie. Il a dit « Je fais ça depuis ma communion. » C'est une personne âgée. À cause de ce type de message, le nom de Dieu a été blasphémé. À cause de ce qu'on entend même chez les évangéliques et les protestants en général, où quelquefois les prédications sont autour d'une notion, j'ai entendu une prédication il y a longtemps, et c'était la question de savoir si Jésus riait. C'était la question, le thème du message. Oh, c'est intéressant. Mais quelqu'un qui a la soif de Dieu dans l'âme, la détresse, qui a soif de Dieu, qui vient entendre une prédication comme ça, ne peut que blasphémer contre Dieu après. Si les églises se vident, si les gens ne se convertissent pas, si la laïcité prend place, c'est parce que Dieu n'a pas été représenté. Le nom de Dieu n'a pas été représenté. Le grand nom de Dieu n'a pas été représenté correctement. Et c'est à nous, ici, de porter ce nom et de le porter d'une manière digne, c'est-à-dire d'être dans cette alliance que Dieu avait établie avec Lévi, comme avec ce sacrificateur, enfin celui qui allait représenter les sacrificateurs, parce que Lévi, le fils de Jacob, bien sûr, n'était pas sacrificateur, mais il était le père de la tribu des sacrificateurs. Mon alliance était une alliance de vie. Quand vous avez la vie de l'esprit, il y a quelque chose qui s'exprime. Ce qui est à l'intérieur vient à l'extérieur. Quelque chose qui s'exprime de la vie de Dieu, qui communique la vie autour de vous, qui fait que, oui, les gens se disent, voilà, moi je suis mort par rapport à ce que j'entends. Je veux connaître cela. Donc soit ils vont réagir comme cela, soit ils vont être ennemis de vous, comme c'était le cas de certains vis-à-vis de Jésus, vis-à-vis des apôtres. Mais ça va susciter une réaction, ça ne va pas susciter de l'indifférence. Les morts ne réagissent pas, les morts ne communiquent rien. Quelqu'un qui est en vie, il communique quelque chose. Il provoque des réactions, soit positives, soit négatives chez les gens. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. La paix de Dieu, est-ce que vous la connaissez? Ou est-ce que vous êtes dans... Est-ce que, quand je dis vous, c'est moi aussi, est-ce que nous sommes dans la panique, en train de s'énerver dans les situations quand ça ne va pas? S'il n'y a pas la paix dans nos cœurs et la paix qui ressort, quelles que soient les circonstances de la vie que nous traversons, alors on peut se questionner sur l'alliance que nous avons établie avec Dieu. Parce que l'alliance que Dieu établit, c'est une alliance de vie et de paix. La paix de Dieu, ça a été la première chose que j'ai expérimentée moi-même. Chez d'autres, c'est d'autres choses. Mais chez moi, c'est la paix de Dieu qui est venue sur moi quand j'étais adolescent. Lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, la paix de Dieu immense est venue. Comme j'ai dit souvent, j'ai pensé que ça allait durer que quelques heures. Mais ça a duré depuis ce moment-là. Bien sûr, je vais dire, ça ne fait pas si longtemps, mais la réalité dément, ça fait longtemps que j'étais adolescent. Mais l'Esprit de Dieu a gardé cette paix. Parce que c'est le même esprit, n'est-ce pas? C'est l'Esprit de Dieu qui ne change pas. C'est une alliance. Ça veut dire qu'il va. Une alliance, ça veut dire qu'il promet, il fait promesse et Dieu ne trompe pas. Il fait promesse, c'est nous qui nous détournons de cette alliance. Si on l'a connue, ou peut-être on ne l'a pas connue. Mais on peut rentrer dans cette alliance ce matin. Et la caractéristique de ça, c'est ce que Dieu a établi. Voilà, Lévi, je t'apporte la vie et la paix. Et en retour, la conséquence était normale. La conséquence était non pas calculée. Elle n'était pas une sorte de « voilà, ben, je vais te donner en retour cela puisque tu m'as donné ça ». C'est naturel. Quand Dieu donne la vie et la paix, il y a la crainte de Dieu et il y a le fait de trembler devant le nom de Dieu. Et cela, si dans cette église, il y avait le manque de crainte de Dieu, le fait de ne pas trembler devant le nom de Dieu, alors il vaut mieux que l'église se ferme. Parce qu'on voit des endroits où on traite Dieu comme un copain, on voit des endroits où on traite Dieu comme quelqu'un de familier. Quel droit avons-nous de faire cela? Lévi avait la crainte de Dieu, il savait très bien qui était Dieu. Il savait que c'était celui qui lui avait donné tout. Et je voudrais savoir si, vous savez que si quelqu'un plutôt manque de respect avec Dieu, si quelqu'un parle familièrement de Dieu ou de la parole de Dieu, eh bien, ça veut dire qu'il ne connaît pas Dieu. Parce que quand on connaît Dieu, la crainte ici, ce n'est pas la peur. C'est pas le fait, mais c'est la crainte de le perdre. C'est « Seigneur, je ne veux pas te perdre, je ne veux pas te faire du mal, je ne veux pas t'offenser parce que je t'aime. » C'est ça la crainte. C'est la crainte que les jeunes gens ont quand ils se rencontrent et ils disent « Voilà, ça je sais que c'est la personne pour moi, pour le mariage. » Mais ils ont peur. Ils ont peur de perdre. Ce n'est pas qu'ils ont peur de l'autre, sinon ils ne se marieraient pas. C'est qu'ils ont peur de perdre. C'est ça la crainte. Et il y a un profond respect, malheureusement, qui quelquefois s'arrête le jour du mariage. en disant ça y est, c'est signé. Mais la crainte doit rester. Et l'alliance avec Dieu, c'est une alliance éternelle. Et on ne peut pas parler à la légère, on ne peut pas considérer à la légère les choses de Dieu. On doit prendre ça au sérieux. Et regardez la conséquence logique qui continue dans le verset 6, on ne l'a pas lu encore. La loi de vérité était dans sa bouche et l'iniquité ne s'est point trouvée sous ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science et c'est à sa bouche qu'on demande la loi parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Vous êtes des sacrificateurs si vous avez donné votre vie à Dieu. Et est-ce que vous pouvez dire que l'iniquité ne s'est point trouvée sur vos lèvres? Si vous le dites, c'est probablement déjà une iniquité qui se trouve sur vos lèvres, parce que tout le monde ici, on doit confesser qu'on n'a pas été droit. Mais Simon-Pierre disait de Jésus, injurié, il ne rendait pas l'injure. Pourquoi ça touchait Simon-Pierre? Pourquoi Simon-Pierre met ça? Les autres pouvaient mettre ça aussi, mais pourquoi Simon-Pierre? Parce que lui, quand on l'insultait, il devait retenir son poing quand Jésus était là. Quand Jésus n'était pas là, le poing partait. J'imagine. Mais en tout cas, même une fois quand Jésus était là, c'était l'épée qui est partie. Et je peux imaginer toujours, quand on commençait à les insulter, Simon-Pierre qui était là en train de dire « Qu'est-ce qu'il y a, vous n'êtes pas content ?» Parce que sa personne n'avait pas encore été transformée par le Saint-Esprit. Et si vous lisez Ézéchiel 36 et 37, vous voyez le message du Saint-Esprit, le message de la Pentecôte. Parce que quand Dieu dit dans le chapitre 37 qu'il va nous faire sortir de nos sépulcres, c'est aussi dans le chapitre 36 et 37 qu'on voit la notion, notamment à ces endroits-là, qu'on voit la notion de l'Esprit, l'Esprit de Dieu qui va graver la loi dans les cœurs. Parce qu'il y a quelque chose qui fait que notre personne est transformée à l'intérieur et que ce qui sort de nous eh bien, est différent. Qu'est-ce qui sort de vos lèvres? Et quand vous aurez fini de dire qu'est-ce qui sort de vos lèvres, je dirai vos lèvres, c'est tout votre corps. Parce que nous devons exprimer la parole de Dieu et notre corps constitue les lèvres qui expriment la parole de Dieu. Qu'est-ce qui sort de nous? Il est dit ici que la loi de vérité était dans sa bouche et l'iniquité ne s'est point trouvée sous ses lèvres. Il n'y avait pas de péché parce qu'il avait décidé, parce qu'il avait rencontré Dieu, parce qu'il avait une vraie alliance de vie et de paix. Et par conséquent, sa vie était une vie sainte. Et quand on a une vie sainte à l'intérieur, ce qui sort, c'est la sainteté. Ce qui sort de vos lèvres, si c'est du mensonge. Pourquoi c'est grave le mensonge? Pourquoi c'est grave de dire à quelqu'un quelque chose qui est faux? On peut dire c'est pas grave, il y a des gens qui disent c'est pas grave, ça dépend des circonstances, c'est pour faire du bien à la personne qu'on dit quelque chose de faux. Le problème c'est parce que, c'est clair, c'est parce que Jésus est la vérité. Quand vous exprimez quelque chose qui n'est pas la vérité, vous exprimez ce qui est contre Jésus, ce qui est le contraire de Jésus. Et ça suffit pour me faire dire, vous devez dire la vérité. Quelqu'un qui avait un problème de mensonge, parce que c'était devenu un réflexe, qui a menté plus vite que sa conscience pouvait détecter le mensonge. Eh bien, le Seigneur lui a dit, maintenant quand tu mens à quelqu'un, tu vas lui dire, après, je suis désolé, mais je t'ai menti. La personne a dû faire ça une fois, je crois, et c'était réglé. Seigneur est intervenu dans la vie. Et ce qui sort de nos lèvres, ça doit être la parole de Dieu, la loi de vérité, la vérité. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Ce n'est pas qu'il a dit aux hommes, voilà, il faut vous détourner du mal. Je ne pense pas que dans cette alliance, c'était ça. C'est juste la personne, si vous voulez. Quand Dieu transforme une vie, la personne est un témoignage et un témoin. Ce sont des lèvres qui s'expriment en permanence, qui disent aux hommes et aux femmes, voilà ce que Dieu peut faire dans une vie. Et les hommes et les femmes doivent venir et dire, moi je veux avoir ce que tu as, je voudrais connaître ce que tu as. Mais si vous énervez, si vous criez, si vous blasphémez, si vous sortez des paroles dures, si vous critiquez, si vous rendez l'injure pour l'injure, eh bien, vous échappez à cette alliance avec Lévi. Vous n'êtes pas dans ce rôle de sacrificateur. Et on doit prendre ça au sérieux. Vous savez ce qui s'est passé dans Ésaïe chapitre 6, lorsque le prophète a dit « Malheur à moi, car je suis un homme dont les lèvres sont impures et je vis au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Malheur à moi, car mes yeux ont vu le roi, l'Éternel. » Et l'un des séraphins a volé vers l'autel, il a pris un charbon ardent, il a touché les lèvres du sacrificateur. Et c'est ça qu'on a besoin. Vous voyez, pourquoi Ésaïe a dit « Malheur à moi, car je suis un homme impur et dont les lèvres sont impures au milieu. » Ce n'est pas qu'il a lu un texte qui lui disait ça. Ce n'est pas qu'il a dit « Ah, il faut que je dise ça. » C'est qu'il aurait pu le dire 5 minutes avant, mais il ne l'a pas dit 5 minutes avant parce qu'il ne ressentait pas. C'est parce qu'il a fait cette rencontre avec Dieu qu'il a eu cette vision de Dieu et cette vision de la sainteté de Dieu qu'il a été conscient de son péché. Dans les églises, on prie parfois pour la délivrance. On dit, voilà, quelqu'un qui dit, je vais être délivré de l'alcool, je vais être délivré de l'immoralité, je vais être délivré de la cigarette, je vais être délivré de ça et ça. Je crois qu'on ne doit pas prier pour la délivrance. On peut prier pour la personne, on peut prier pour la délivrance de la personne, mais on doit prier que les personnes rencontrent Dieu et une vision de Dieu. Une rencontre profonde avec Dieu. Parce que quand vous avez la rencontre avec Dieu, vous avez la conscience de l'écart qui existe entre votre vie et celle de Dieu. Et ça vous pousse à genoux, n'est-ce pas? Quand les gens disent « j'ai rencontré Dieu et j'ai sauté de joie, j'ai commencé à rire, etc. » Je suis sceptique. La rencontre avec Dieu d'abord nous fait tomber à genoux. Ce qui nous donne la joie et la paix après, et l'allégresse, c'est le pardon de Dieu. C'est le fait de pouvoir se relever. Mais dans la rencontre avec Dieu, dans cette communion avec Dieu, dans cette vision de Dieu, il y a ce sentiment, malheur à moi, je suis un homme impur. On dit que dans les réveils, le réveil du Pays de Galles, les gens, c'était au début du XXe siècle, les gens commençaient à pleurer pour des péchés qui étaient considérés comme n'étant pas des péchés. Avant le réveil, on aurait dit, bon, tout le monde fait ça, c'est pas grave. Commence à pleurer pour les péchés parce que l'Esprit de Dieu était là. Parce que l'Esprit de Dieu, la rencontre avec l'Esprit de Dieu suscite une crainte de Dieu, un amour de Dieu, une transformation de notre vie. Au point que toute la vie est transformée. J'ai rencontré quelqu'un quand j'étais enfant qui avait connu, dont les parents avaient connu le réveil au Pays de Galles. Et cette femme qui était âgée, mais qui a connu son enfance dans le réveil du Pays de Galles, eh bien, elle rayonnait de la présence de Dieu. Son visage était radieux. Elle aimait le Seigneur, mais elle avait connu quelque chose de la rencontre avec Dieu. Ses parents avaient connu. La police n'avait plus rien à faire, strictement rien à faire. Tout, certains villages entiers étaient nés nouveaux. Les gens allaient à la mine travailler en chantant les cantiques. Tous les mineurs allaient se diriger vers, parce que l'Esprit de Dieu l'a décidé ainsi. On ne doit pas dire, voilà, on va prier pour que ça se reproduise. L'Esprit est libre. Là où est l'Esprit est la liberté, parce que lui-même est libre. Il fait comme il veut. Mais surtout, oui, priez pour un réveil dans votre vie. parce que cette rencontre avec Dieu va toucher les cœurs des hommes et des femmes qui vous entourent. Et ça va communiquer quelque chose qui va donner envie, n'est-ce pas? On va dire, voilà, je voudrais connaître ça aussi. Mais on a besoin qu'il nous touche les lèvres. On a besoin qu'il touche notre vie entière. Les lèvres, c'est notre corps entier. Combien on a besoin qu'il nous touche. Combien on a besoin qu'il intervienne. Et si ce matin, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, mettez ça devant Dieu. Trouvez-vous dans la présence de Dieu. Demandez au Seigneur cette grâce de pouvoir le connaître mieux. Approchez-vous de lui par sa parole, mais recevez sa parole adaptée à vos cœurs. Tout cela, il le fait à cause de son grand nom. Encore une fois, dans Ézéchiel 36, il dit, je ne le fais pas à cause de vous, mais à cause de mon nom. Parce que son nom a été profané, parce que son nom a été blasphémé, il a dit quelque chose d'étrange dans le chapitre 36 d'Ézéchiel. Il a dit, mon nom est grand parmi les nations. Autrement dit, vous les Juifs qui êtes le peuple de Dieu à l'époque, mon nom n'est pas grand chez vous, il est profané. Mais dans les nations, il est grand. Parce que les nations savaient, ils savaient que Dieu est réel, ils ont vu des choses se produire, ils savaient, c'était écrit dans leur texte, c'était raconté de génération en génération, tu sais, il y a un peuple dont le Dieu est le vrai Dieu. Nous, on adore des idoles parce qu'on est obligé, mais il y a un peuple. Et là, le Dieu intervient vraiment. Dieu était grand parmi les nations. Dieu était grand chez Hérode quand il a mis tant de soldats pour garder Pierre, parce qu'il savait que Dieu pouvait intervenir. Il a fallu qu'il mette plein de soldats, 16 si je ne me trompe pas, pour le garder, en plus avec des chaînes et la prison fermée. Ça n'a pas empêché Dieu d'agir. Mais il savait, bien sûr, il était loin de Dieu. Quand j'ai dit Dieu était grand pour lui, ce n'était pas dans sa vie. Mais il savait que Dieu était grand. Est-ce que les gens qui sont autour de nous savent que Dieu est grand? Ou est-ce que quand nous sommes dans une situation difficile, nous paniquons dans tous les sens? En disant, oui, mais le Seigneur, il ne va pas intervenir si je ne fais pas des démarches, si je ne fais pas ceci, cela. Je ne savais pas que Dieu avait besoin de démarches. Je sais que Dieu demande parfois de le faire. Mais je sais aussi qu'il agit par miracle. Est-ce quel est l'état de notre cœur? C'est d'avoir la paix ou d'être agité? Le Seigneur veut rétablir dans son peuple la grandeur de son nom. Le nom que vous portez, c'est le nom de Dieu, le nom de chrétien, le nom de Jésus. Et ce nom, vous le portez pas pour être appelé. Vous savez que si j'avais demandé au début du message pourquoi on a un nom, j'aurais dit spontanément, ben c'est pour être appelé, pour être désigné. Comme ça, quand on dit un nom, voilà, j'arrive. Si on me dit Paul, je sais qu'on parle de moi. Si on, voilà, je sais. Si c'est quelque chose de négatif, je préfère que ce soit un autre prénom que le mien. Vous voyez, c'est comme ça. Bon, mais c'est pas pour être appelé, parce que Dieu a un nom qui était imprononçable pour le peuple de Dieu. C'était imprononçable. Donc si c'était pour être appelé et qu'il donne un nom imprononçable, il y a quelque chose qui est difficile à comprendre. Il a un nom pour le transmettre. Et ce nom, il nous l'a transmis, il nous l'a donné. Si on a décidé un jour de suivre Jésus-Christ, il nous a donné ce nom. Qu'est-ce qu'on fait de ce nom? Qu'est-ce qu'on fait de ce nom dans notre vie de travail, dans notre vie de famille? Qu'est-ce qu'on fait du nom de Dieu? Est-ce qu'on est responsable du fait qu'il soit blasphémé? Ou est-ce que on honore ce nom? On lui donne la grandeur qu'il a, n'est-ce pas? Que le Seigneur nous aide, qu'il nous touche. Et j'aimerais juste terminer cette prédication en lisant le début du chapitre 3 de Malachie. Il dit, voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assèra, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Voilà ce que Dieu va faire aujourd'hui si vous venez à lui dans votre vie. Il va envoyer Jésus-Christ. C'est clairement question de Jésus, bien sûr. Il entrera dans son temple, parce que si vous avez donné votre vie, votre corps devient son temple. Il va rentrer en vous le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'Alliance que vous désirez. Il vient, mais qui pourra soutenir? Vous ne pourrez pas soutenir. Vous allez devoir pleurer, vous allez devoir vous repentir. Vous allez devoir laisser son œuvre de fondeur, de purificateur. Ça va remuer à l'intérieur, mais laissez-le faire. Il sait ce qu'il fait, il purifie son temple, il l'a montré quand il était sur la terre à deux reprises, Jésus, comment il a chassé les voleurs, les vendeurs du temple. Et l'Esprit de Dieu fait son œuvre avec puissance dans les vies, mais n'ayez pas peur. Parce que quand il fait son œuvre, il dit toujours « ne craignez pas, n'ayez pas peur ». Quand il est apparu, on a lu ça à Sophie et moi hier soir, quand il est apparu dans Matthieu à la 28, quand il est apparu après sa résurrection aux femmes, il a dit « n'ayez pas peur ». Mais aux autres, il n'a pas dit ça. Il n'a pas toujours dit ça. Il a pas, quand je dis aux autres, pardon, aux soldats qui gardaient, il les a laissés avoir peur, ils ont été traumatisé par ce qui s'est passé. Mais il a pas dit « ne craignez rien ». Il a dit aux femmes à qui il s'est présenté en premier. Il s'est présenté à des femmes en premier parce que c'était les femmes qui cherchaient plus. C'est pour ça qu'il s'est apparu en premier à elles. Les disciples étaient là en train de se réunir, en s'enfermer dans une... on sait jamais. Et Marie qui avait été pardonnée, qui avait, comme on l'a chanté tout à l'heure, elle a voulu aller au tombeau pour voir, pour veiller à ce que tout aille bien. Et ça touchait le cœur de Jésus, n'est-ce pas? Et donc il est apparu à elle en premier. Mais vous les hommes, ne laissez pas ce privilège seulement aux femmes. C'est pour les hommes et les femmes, c'est pas seulement pour les femmes. On voit des églises évangéliques, il n'y a que des femmes. Il n'y a pas d'hommes. Parce que ce sont les femmes qui ont cherché Dieu, mais... c'est pour tous, n'est-ce pas? Et nous aussi, on doit chercher Dieu, n'est-ce pas, dans notre vie. Alors, on va prier et que le Seigneur nous transforme, qu'on rentre dans cette alliance de Lévi. Seigneur, merci pour cette alliance avec Lévi. Tu as fait... il ne savait rien du tout de ce qu'il attendait. Il ne savait pas que le nom qu'il portait, c'était le nom de la tribu qui deviendrait la tribu des sacrificateurs. Probablement Lévi se sentait dévalorisé à cause de l'attitude de son père Jacob. Il se sentait moins bien parce qu'il n'était pas fils de Rachel, mais fils de Léa. Et Seigneur, tu vois que certains ici se sentent moins bien que les autres à cause de l'éducation qu'ils ont reçue. Ils ont l'impression d'avoir eu moins de chance dans la vie. Mais Seigneur, tu l'avais choisi. Tu l'as fait rentrer dans une alliance. Seigneur, sa tribu, en tout cas, est rentrée dans une alliance avec toi, qu'il ignorait. Mais Seigneur, tu as agi pour l'utiliser, lui. Seigneur, tu as béni parce qu'il a eu la crainte devant son nom, devant ton nom. Parce qu'il a respecté ton nom, il a tremblé devant ton nom, Seigneur, parce qu'il a voulu... que Seigneur, tu purifies ses lèvres aussi. Et parce qu'il a marché avec toi et tu nous appelles ce matin à faire de même. Seigneur, tu connais notre passé, tu connais notre histoire. Et tu sais de où on vient. Tu sais, Seigneur, ce qui fait que nous pensons de telle manière, que nous réagissons de telle manière. Mais tu veux nous donner un nom nouveau ce matin. Seigneur, tu veux donner ton nom sur nous, tu veux mettre ton nom. Tu as dit à l'église de Philadelphie, je pense, j'écrirai sur vos fronts le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. Seigneur, que ce soit ainsi ce matin. Que nous soyons sûrs, Seigneur, que ton nom est marqué sur nos fronts. Que, Seigneur, toute notre vie, tous nos comportements, nos lèvres soient caractérisés par la puissance de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Que, Seigneur, il y ait un baptême du Saint-Esprit constant dans nos vies. Que, Seigneur, l'Esprit de Dieu se déverse dans les cœurs des hommes et des femmes ici, de nos frères aussi qui vont partir mardi. Seigneur, que de ce que tu as commencé à faire dans nos vies, tu augmentes cette œuvre et tu fasses vraiment des miracles. Mais que, Seigneur, le nom de Jésus soit honoré, Seigneur, jamais, jamais, jamais déshonoré. Que jamais le nom de Dieu soit blasphémé à cause de nous. Que jamais le nom de Jésus soit pris à la légère. Que, Seigneur, nous puissions marcher dans l'intégrité et la droiture. Et que ce soit ça le témoignage de nos vies, pas seulement le témoignage que les hommes et les femmes vont rendre de nous, mais le témoignage que toi-même tu rendras, comme tu l'as fait pour Lévi. Si quelqu'un, Seigneur, ne te connaît pas ce matin, qu'il se donne à toi ce matin, dans la simplicité, Seigneur, de ton amour, dans la simplicité de ton évangile, en disant, Seigneur, je veux te rencontrer, je veux te laisser rentrer dans le temple de ma vie, pour que tu fasses ton œuvre de purification, pour que tu laves, pour que tu sanctifies, pour que tu brûles ce qui n'est pas de toi. Amen. Maintenant,